VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de la capitale américaine, mercredi 14 novembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, combat en zone anglophone au Cameroun, au moins 25 séparatistes ont été tués. Présidentiel en RDC, les divisions persistent au sein de l'opposition après l'accord sur un candidat unique. L'ONU a levé toutes les sanctions contre l'Érythrée et au Proche-Orient, le ministre israélien de la Défense démissionne après conclusion d'un cessez-le-feu entre Israël et des groupes palestiniens. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Cameroun, au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats dans la région anglophone du Nord-Ouest. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Sur des photos obtenues par l'AFP de sources sécuritaires, une dizaine de corps présentés comme ceux de combattants séparatistes abattus ont été alignés sur le sol. Des armes, en majorité des fusils de chasse, ont été placés à leur côté. L'armée dit n'avoir enregistré aucune perte dans ses rangs. Les séparatistes avaient établi leur base à l'école publique de Mayo Binka, selon la même source. D'après Donga Mantung, un des propagandistes des séparatistes, l'armée a emporté les corps des combattants tués. Dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une crise sociopolitique a éclaté fin 2016 et s'est transformée en conflit armé. Yaoundé a déployé des forces de sécurité pour établir l'ordre. Selon des ONG comme Human Rights Watch, plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité sont morts dans ce conflit, ainsi que plus de 500 civils. D'après l'ONU, au moins 437 000 personnes ont fui leur domicile dans ces régions.
Dans le nord-est du Nigeria, au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres portées disparues à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des membres présumés de Boko Haram. Des membres d'une milice d'autodéfense ont retrouvé 15 corps à la suite d'attaques lundi contre des villageois. République démocratique du Congo, les opposants continuent d'étaler leur division après l'accord morné sur un candidat unique. Le texte signé sous les auspices de la Fondation Kofi Annan, qui a rendu public la lettre d'engagement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Le point avec Nani Talani.
La Fondation Kofi Annan vient de publier la lettre d'engagement sur l'accord de Genève, signée par les 7 signataires, dont les 2 opposants qui ont fait volte-face. « Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs », lit-on dans les 2 lettres signées par M. Tshisekedi et Kamerhe. Hier, Martin Fayulu, désigné candidat unique de l'opposition, a invité Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à dépasser les considérations partisanes et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, M. Tshisekedi a réagi sur Twitter disant « Cher frère Martin, je te demande de dire à l'opinion les termes de l'engagement que tu as pris devant moi, les yeux dans les yeux, une heure avant la réunion. Ainsi, nous pourrons parler d'intérêt de la nation. » Ajoutant « Nous avons été grugés, j'ai le sentiment d'avoir été trahi. » M. Tshisekedi et Kamerhe ont dénoncé dès lundi l'accord signé la veille à Genève par 7 opposants et qui faisait de Martin Fayulu le candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre.
Par ailleurs, les Nations Unies se disent de plus en plus alarmées par les violences à Béni et la situation sécuritaire qui menace la tenue des élections du 23 décembre. À 9 jours de l'ouverture de la campagne le 22 novembre, les violences des groupes armés pourraient affecter le déploiement du matériel électoral et pourraient même empêcher certaines parties de la population de voter. C'est ce que redoute l'ONU. Par ailleurs, 25 170 cas de choléra, dont 857 décès, ont été notifiés depuis le début de l'année en RDC, selon les statistiques publiées par le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé. Au Gabon, aucun conseil des ministres ne s'est tenu depuis 3 semaines, période correspondant à l'absence du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite. Reporters sans frontières dénonce une inquiétante érosion de la liberté de la presse quelques jours après la nouvelle suspension d'un journal de son rédacteur en chef. L'Aube avait publié début novembre un article sur la santé du président Ali Bongo Ondimba en titrant « Le Gabon en très dangereux pilotage automatique ». L'Aube a été suspendue pour 3 mois. L'ONU a levé les sanctions contre l'Érythrée. Il s'agit de l'embargo sur les armes, toutes les interdictions de voyage, les gels d'avoir et les autres sanctions qui visaient Asmara. Eric Maniarakiza.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité cette résolution élaborée par la Grande-Bretagne. Depuis 2009, l'Érythrée était sous le coup de sanctions pour son soutien présumé aux djihadistes en Somalie, une accusation que le gouvernement érythréen a toujours niée. Le texte appelle aussi l'Érythrée et Djibouti à poursuivre les efforts pour régler leurs différends. Les relations entre Djibouti et l'Érythrée se sont détériorées en avril 2009 à la suite d'une incursion de troupes érythréennes vers Ras Doumeira, un promontoire stratégique qui surplombe l'entrée de la mer Rouge au nord de Djibouti-ville. Les deux pays se sont affrontés à deux reprises en 1996 et 1999 pour cette zone. La résolution appelle également Asmara à fournir des informations sur le sort de soldats djiboutiens disparus après les heurts il y a 10 ans. Asmara a signé en juillet avec l'Éthiopie un accord de paix qui a mis fin à 2 décennies d'hostilité et conduit à un apaisement de ses relations avec Djibouti, ce qui laisse augurer de changements positifs dans la corne de l'Afrique.
Migration vers l'Europe, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, d'extrême droite, a accueilli 51 Africains arrivés du Niger après avoir été évacués de Libye par l'ONU en assurant que l'Italie restait un pays d'accueil généreux et solidaire. Par ailleurs, le député Guillaume Larrivé, cadre du parti de droite Les Républicains, a appelé Emmanuel Macron à la tenue en France d'une conférence internationale avec les pays d'Afrique et du Golfe en vue d'un traité sur l'immigration et le développement. Il souhaiterait notamment que l'aide au développement versée par les États européens soit conditionnée à un effort de maîtrise de l'immigration. Enfin, 9 migrants ont été interceptés au large de la Grande-Bretagne à bord d'une petite embarcation qui traversait la Manche dans la nuit de mardi à mercredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé sa démission, ce qui plonge le gouvernement de Benjamin Netanyahou dans la tourmente au lendemain d'un accord de cessez-le-feu avec les groupes palestiniens dans la bande de Gaza. Le point avec Lionel Gaïma.
L'ultranationaliste Avigdor Lieberman a dénoncé le cessez-le-feu comme une capitulation devant le terrorisme. Il appelle à des législatives le plus tôt possible, avant l'échéance fixée à novembre 2019. Avec le retrait de la coalition de son parti, Israël Beiteinu laisse M. Netanyahou avec une majorité d'un seul siège sur les 120 de la Knesset. Le Premier ministre israélien peut dissoudre un parlement hostile et convoquer les électeurs dans les 90 jours. Pour le moment, son parti, le Likoud, semble écarter cette éventualité. D'ores et déjà, dans la bande de Gaza, le Hamas a salué la démission de Lieberman comme une victoire. Le cessez-le-feu conclu indirectement mardi, grâce à l'Égypte, a été respecté ce mercredi après une escalade sans précédent depuis 2014. 14 Palestiniens ont été tués par des tirs et des frappes israéliens. Un officier israélien et un autre Palestinien travaillant en Israël ont été tués par une roquette.
Le gouvernement des Émirats arabes unis dit soutenir la convocation de pourparlers de paix interyéménites en Suède sous l'égide de l'ONU. Les Émirats arabes unis, piliers de la coalition anti-rebelle au Yémen aux côtés de l'Arabie saoudite, disent travailler étroitement avec l'ONU pour étendre l'assistance humanitaire à toutes les régions du Yémen. Sur le terrain, la bataille de Hodeïda connaît un net répit avec 12 jours de bombardements et des combats meurtriers. Des commandants des forces pro-gouvernementales yéménites disent avoir reçu l'ordre d'arrêter les opérations contre les rebelles houthis dans la ville portuaire de Hodeïda. Bangladesh, la présence militaire a été renforcée dans les vastes camps de Rohingyas, alimentant chez les réfugiés la peur d'un rapatriement en Birmanie, malgré les objections de l'ONU. Le Bangladesh a annoncé qu'il lancerait jeudi, au terme d'un accord avec la Birmanie, le rapatriement d'un premier groupe de 2260 réfugiés au rythme de 150 par personne. Le bilan des victimes des incendies qui ravagent la Californie s'élève à 50 morts aujourd'hui. Des milliers de pompiers tentent toujours de contenir les flammes du Campfire, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Des milliers de migrants d'Amérique centrale progressaient rapidement aujourd'hui à bord de cars à travers le nord-ouest du Mexique, tandis que des groupes qui se sont détachés de la caravane principale ont commencé à arriver à Tijuana, à la frontière avec les États-Unis. Environ 350 migrants sont parvenus mardi dans cette ville frontière qui jouxte San Diego en Californie. Les États-Unis ont déployé des milliers de militaires à la frontière américano-mexicaine et partiellement fermé à l'aide de barricades et de barbelés et des postes frontières. Le 9 novembre, le président américain Donald Trump a signé un décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes ayant traversé illégalement la frontière avec le Mexique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
En Angola, le Parlement a adopté un projet de loi sur le rapatriement forcé des biens détenus à l'étranger. Ce projet devrait s'appliquer aux biens meubles, immeubles et financiers détenus à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, acquis sur la base d'activités illégales ayant porté préjudice à l'État, même si ces biens ont été transférés gratuitement à un tiers ou à un prix dérisoire. Ce projet de loi devrait permettre d'établir des procédures facilitant la perte au profit de l'État de biens acquis illégalement. La Chine ouvre son marché aux exportations agricoles kényanes. Parmi les produits pouvant pénétrer ce marché de plus d'un milliard de consommateurs figurent les fleurs, les légumes et les fruits, dont les avocats, les mangues et la noix de macadamia. Il y a aussi les produits d'origine animale comme la viande, les peaux brutes et le cuir. Les exportations du Kenya vers la Chine ont atteint 167 millions de dollars contre des importations de 3,78 milliards de dollars. Terminons avec la Tunisie qui, au terme de la saison 2017-2018, a exporté 215 000 tonnes d'huile d'olive pour 2,14 milliards de dinars, soit près de 730 millions de dollars. Ces chiffres dépassent les attentes formulées en mai dernier. Cette performance vient confirmer le dynamisme de la filière olive qui fournit à elle seule près de la moitié de la valeur des exportations agricoles de la Tunisie.
L'info sur les stades, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Rwanda et la RDC, dos à dos, dans la CAN des moins de 23 ans.
Opposés ce mercredi, Rwandais et Congolais ne sont pas parvenus à se départager, score final 0-0. Même s'ils seront favoris au retour à domicile, les Léopards devront se méfier de ce résultat piège en l'absence de but à l'extérieur, puisqu'un match nul avec but au retour les éliminerait. Des joueurs comme Lunanga de V-Club, Zola, Likonza et Muleka du TP Mazembe étaient titulaires côté Congolais, avec aussi les expatriés Kayembe d'Anderlecht et Balonga de Saint-Tron. En face, Innocent Chouti du stade tunisien n'est pas parvenu à faire la différence en faveur des locaux. Le match retour aura lieu mardi prochain.
Le Ghana cartonne d'entrée au Mondial féminin des moins de 17 ans.
Et oui, face à l'Uruguay, pays hôte dans le groupe A, le Ghana a explosé les Sud-Américaines 5-0 avec un triplé de la capitaine Mukarama Abdoulaye et deux buts de Mumuni et de Pokua. De son côté, l'Afrique du Sud a tenu en échec le Mexique 0-0 dans l'autre match de la poule A. Un peu plus tard, le Cameroun, dernier représentant africain, entrera en lice face aux États-Unis.
Zambo Anguissa, Seri et Haïti ont un nouveau coach.
Il s'agit de Claudio Ranieri. Arrivé à Fulham l'été dernier, Frank Zambo Anguissa et Jean-Michel Seri connaissent un mauvais début de saison avec le club promu en Première Ligue. Après 12 journées, les Katagers sont derniers au classement du championnat avec seulement 5 points. Conséquence, les dirigeants du club ont limogé Slavisa Djokanovic et nommé l'Italien pour le remplacer. Champion d'Angleterre avec Leicester en 2016, Claudio Ranieri était libre depuis qu'il a quitté le FC Nantes à la fin de la saison dernière. Il aura donc la lourde mission de remonter la pente avec l'Ivoirien Seri, le Camerounais Zambo Anguissa ou encore le Togolais Flood Haïté.
Basket, les Warriors se sont repris en NBA.
Oui, les Golden State Warriors ont battu Atlanta 110-103 malgré la suspension de Draymond Green. Kevin Durant et Klay Thompson ont tiré leur équipe vers le haut avec 29 et 24 points chacun. Les Warriors restent en tête de la conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires contre 3 défaites. Dans la rencontre opposant les Houston Rockets aux Denver Nuggets, ce sont les Texans qui sont repartis vainqueurs 109-99. Les Charlotte Hornets se sont inclinés à Cleveland 113-89 contre les Cavaliers.
Merci Yakuba. De retour avec vous, Morgane Guériec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Du nouveau dans la lutte contre la corruption au Nigeria. Un centre visant à assurer la protection des témoins ainsi que la justice aux victimes de la corruption sera bientôt établi. Reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une stratégie.
En plus de nos programmes sur FM,
servira d'intermédiaire entre les Nigériens vivant en zone rurale ou même ceux qui vivent dans la capitale mais qui ne savent pas revendiquer leurs droits et les institutions de lutte contre la corruption au Nigeria. Tous les cas de corruption seront désormais reçus et enregistrés par ce centre pour des enquêtes et se chargera d'assurer la défense des personnes victimes de corruption. Awal Moussa Ibrahim Rafsanjani du CISLAC, centre de défense des droits humains, en est l'initiateur.
If you don't have this center,
si ce centre n'existait pas, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas d'argent pour aller à la justice, beaucoup de Nigériens qui n'ont pas les moyens d'aller voir EFCC ou ICPC ou encore ceux qui ne savent tout simplement pas comment le faire, ils continueraient à être des victimes de la corruption ou des abus des droits humains. C'est pourquoi ce centre est pour les gens ordinaires qui ne peuvent pas défendre leurs droits ou qui sont victimes de corruption.
Il existe plusieurs agences gouvernementales de lutte contre la corruption au Nigeria, mais ces institutions ont encore du mal à lutter efficacement ou mettre fin à ces fléaux qui atteignent des proportions inquiétantes dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest. Elles sont souvent accusées d'être sélectives dans certains cas de corruption contre les cadres ou les individus inculpés, comme le pense Kola Wole, un activiste qui combat la corruption.
First is the issue around the institutions.
Tout d'abord, c'est un problème d'institutions. Nos institutions sont généralement faibles. Elles sont influencées par des poids lourds et donc si les intérêts dominent, vous ne pouvez pas combattre la corruption. Si vous avez un homme fort, mais qui est entouré d'autres hommes et que vous avez parmi eux des corrompus qui peuvent influencer l'homme fort, c'est le cas par exemple des institutions qui doivent enquêter, arrêter, juger et inculper.
Cette nouvelle structure se veut plus dynamique, mais va surtout défendre les sans-voix. Elle a déjà signé des accords de collaboration avec les autres agences en place. La police est un partenaire privilégié de ce centre. Abayomi Shokunle, commissaire assistant de la police nationale, en charge de l'unité de lutte contre la corruption.
Je pense que le problème de la corruption au Nigeria, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper tous, pas seulement le gouvernement. Tout le monde est concerné par ce problème de corruption au Nigeria parce que, selon les informations que nous recevons, il y a de la corruption à tous les niveaux, en bas comme en haut.
Quatre années après son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a en effet connu très peu de succès dans sa lutte contre la corruption. Les milliards détournés n'ont pas été récupérés. Plus grave, les enquêtes piétinent aussi. Selon IFCC, la commission de lutte contre les délits financiers, plus de 700 dossiers de corruption se trouvent présentement devant la justice nigériane. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Des artistes ayant soutenu le président camerounais Paul Biya sont boycottés par la brigade anti-Sardinard. Ce mouvement de la diaspora a vu le jour après la victoire de Paul Biya. Il reproche notamment à ces artistes d'avoir pris part à un concert organisé en fin de campagne électorale par le parti au pouvoir. À Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Mon choix est unique et il reste à vie.
Ama Pierrot est artiste musicien et réside au Cameroun. Il s'est toujours produit jusqu'ici hors du pays sur invitation de la diaspora camerounaise. Le 6 octobre dernier, l'artiste Ama Pierrot a préparé à Yaoundé au concert de fin de campagne du président Paul Biya.
J'avais des trucs au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en France. Tout ça là, c'est annulé parce que les gens trouvent que nous, on est allé supporter Paul Biya. Ok, il n'y a pas de problème.
Lady Bones, Coco Argenté, Katino, Karens Futso. Les humoristes Moustique le Charismatique et Kaiser Show avaient eux aussi répondu à l'appel lors de ce concert de soutien à Paul Biya. Au moins, 4 spectacles de certains de ces artistes ont été annulés par la police en France et en Allemagne depuis le 31 octobre dernier. Le mouvement Brigade Anti-Sardina a, à chaque occasion, organisé des sittings de protestation contre ces spectacles.
Il n'y a plus de concert pour vous en Europe, en Amérique, au Canada, même en Afrique. Nous allons prendre les dispositions là-bas.
Emmanuel Kemta est l'un des activistes de la brigade anti-Sartina.
Le pays souffre. Et vous vous amusez comme ça? Vous partez chanter pour Paul Biya parce qu'il a donné de l'eau au Cameroun? Parce qu'il y a les routes au Cameroun? Parce qu'il y a l'électricité au Cameroun? C'est pourquoi?
Des menaces à caractère politique que ne digère pas l'artiste Écho du Palais, auteur-compositeur d'un célèbre chant à l'honneur de Paul Biya.
Paul Biya, Paul Biya, notre président.
L'artiste Écho du Palais est aujourd'hui l'un des administrateurs de la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM.
Longue a supporté les autres candidats. On n'a pas lancé les pierres à cela parce que nous sommes dans le contexte démocratique.
Le boycott de certains artistes camerounais par la brigade anti-Sardinard ne laisse pas indifférent Jean-Pierre et Don Compandré, résident de Yaoundé.
Cette situation comme ça, c'est ça qui peut amener les conflits. Il est vrai que les Camerounais souffrent dans la colère, ils prennent certaines décisions, mais ce n'est pas bien.
Si les artistes aujourd'hui disent qu'ils tournent le dos au RDPC, ils vivent dans le pays du RDPC. S'ils disent qu'ils tournent le dos à ceux qui sont en Europe, ils sont appelés à voyager d'une manière ou d'une autre, puisqu'il n'y a rien de profitable pour l'artiste ici au pays. Donc c'est très grave cette situation-là.
Narcisse Mouelé-Kombi, le ministre camerounais de la Culture, s'est exprimé sur cette question. Je condamne les 10 agissements dans la mesure où ils constituent une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression, a-t-il déclaré. VOA Afrique a appris que le conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical va inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine assise le sujet du boycott de certains artistes camerounais par la brigade anti-Sardina. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Togo a adopté en août dernier son plan national de développement. Il s'agit d'un programme quinquennal qui doit être piloté sur la période 2018-2022. Le Togo s'est donné comme priorité de transformer l'économie pour une croissance de 7,6% à l'horizon 2022. À Lomé, les précisions de notre correspondante Kay Lawson.
La transformation de l'économie togolaise est d'actualité. Le plan national de développement PND dont le pays s'est doté est structuré autour de 3 axes stratégiques. Kanka Malik Natchaba, conseiller du président togolais, en charge de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires.
Le premier axe, c'est la mise en place d'un hub logistique d'excellence et d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Le deuxième axe, c'est la mise en place de pôles de transformation agricole, manufacturière et minière. Et le troisième axe, c'est le renforcement des mécanismes d'inclusion sociale. Donc, ces 3 axes interdépendants concourent à la création d'emplois et aussi la réduction de la pauvreté.
Concernant le deuxième axe stratégique relatif notamment au secteur agricole, des acteurs estiment qu'il faut mettre l'accent sur la transformation agroalimentaire. Ismaël Tanko, jeune entrepreneur et producteur de purée de tomates.
Un produit agricole vendu tel quel n'apporte pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée au pays et à l'agriculteur. Donc à mon avis, cette contribution du PND là, il faut nécessairement qu'elle aille dans le sens de promouvoir plus d'unités de transformation, plus d'usines de transformation de nos produits agricoles.
65% du financement de ce plan de développement vont provenir du secteur privé à travers des partenariats publics-privés. Pour sa participation à ce plan, le secteur privé togolais exclut des projets productifs, nous dit Germain Meba, président de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo.
Le secteur privé est en train de chercher un ensemble de projets productifs. C'est gagner de l'argent. Et pour cela, nous cherchons à voir des projets porteurs.
Dans le cadre de ce PND, le gouvernement togolais se tourne vers des pôles bancaires pour le financement de certains secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Le financement de la centrale thermique de Lomé de 50 MW sera mobilisé par des banques avec pour chef de file Aura Bank Togo. Binta Ndoye Touré, directrice générale d'Aura Group, revient ici sur l'accompagnement de son institution.
Le secteur de l'énergie est stratégique pour nos pays de l'Afrique. Le secteur des infrastructures, toute chose aujourd'hui qui permettra à l'Afrique de mieux se développer.
Grâce au PND, le Togo espère créer 500 000 emplois sur 5 ans et réduire l'indice de pauvreté monétaire à 44,6. L'autre résultat attendu à l'horizon 2022 est de porter le taux de croissance de l'économie à 7,6%. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Dans ce Washington Forum, retour sur le coup de théâtre survenu au sein de l'opposition en RDC après l'annonce d'un accord désignant Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. Cet accord, signé à Genève, a volé en éclats en moins de 24 heures sous la pression des cadres et des militants de leur parti. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont annoncé leur retrait. Quelle analyse faire de ce revirement? Que vaut l'accord de Genève sans l'UDPS et l'UNC? Quelles sont les chances de l'opposition congolaise à la présidentielle de décembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Le président américain a une nouvelle fois critiqué hier la proposition d'Emmanuel Macron de créer une armée européenne, quelques jours après avoir jugé très insultants les propos de son homologue français sur la création d'une telle force militaire. Et la chancelière allemande Angela Merkel a aussi soutenu l'idée d'Emmanuel Macron. Par ailleurs, le président Trump menace de taxer davantage les vins français. Sur le ton jugé trop dur adopté par Donald Trump depuis son retour de Paris le week-end dernier, Abdourahmane Dia joint le politologue Jean-François Seznec.
Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une stratégie. J'ai bien peur, malheureusement, que le président Trump réagisse impulsivement sans avoir vraiment de stratégie. Alors, dans sa tête à lui, si vous voulez, il a une stratégie au sens où il essaye de forcer les Européens à augmenter leur contribution au budget de l'OTAN. Et ça, c'est tout à fait nécessaire. Mais sa façon de le faire à lui, c'est d'insulter les gens, si vous voulez, et essayer de créer une peur en Europe que les États-Unis ne supporteraient pas vraiment l'Europe, sauf si l'Europe continue à travailler avec les États-Unis, en fait à donner de l'argent à l'OTAN.
La chancelière allemande Angela Merkel a un peu rejoint le président Macron sur cette idée d'une armée européenne. C'est une crainte qui se justifie que peut-être les États-Unis pourraient lâcher l'Europe?
Non, je pense que c'est une crainte réelle. L'administration actuelle aux États-Unis n'est pas du tout favorable à un support des alliés en Europe parce que je trouve que c'est une perte d'argent et que les alliés, et il a en partie raison, que les alliés ne font pas les efforts nécessaires et sont trop dépendants des États-Unis. Donc, ils veulent absolument, les Américains veulent changer ça, mais du coup, les Européens décide que peut-être qu'il faudrait qu'on soit plus européen directement et moins contrôlé par les Américains.
Et le président Trump a ironisé un peu sur l'occupation allemande et également menacé de taxer les vins français. Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence dans les rapports entre la France ou l'Europe de façon générale et les États-Unis?
À court terme, je ne pense pas que ce soit très important. Je pense que les gens savent très bien et tout le monde se rend compte que le président américain est très impulsif et qu'il utilise des phrases très fortes pour essayer d'obtenir un petit peu, de bouger un petit peu la politique des autres pays. Mais à long terme, c'est quand même beaucoup plus grave parce que ça veut dire qu'effectivement, les Européens commencent à se poser beaucoup de questions sur l'alliance avec les États-Unis et vice-versa. Et je pense qu'effectivement, à long terme, ça va affaiblir les relations entre les deux continents.
Et ça va profiter à qui? À la Russie, à la Chine?
Bien sûr, ça va profiter à la Chine et à la Russie, certainement.
Voilà, c'était Jean-François Seznec de Georgetown University, ici à Washington. C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Sims Loumami, à la présentation Morken Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.